Chapitre 14, dans lequel l'homme de la colline finit son histoire. Monsieur Watson, continua le vieillard, m'instruisit franchement que le mauvais état de ses affaires, occasionné par un revers terrible de la fortune, lui avait fait prendre en quelque sorte, malgré lui, la résolution de se détruire. Je commençai à discuter très sérieusement avec lui, en combattant ce principe païen, ou plutôt diabolique, qui autorise le suicide, et lui dit sur ce sujet tout ce qui se présenta à mon esprit. Mais, à mon grand regret, tous mes discours ne parurent produire que très peu d'effet sur lui. Il ne semblait pas du tout se repentir de ce qu'il avait fait, et me donnait lieu de craindre qu'il ne tentât bientôt de renouveler cette horrible entreprise. Quand j'eus fini de parler, sans chercher à combattre mes arguments, il me regarda fixement, et me dit avec un sourire, « Vous êtes bien changé, mon cher ami, depuis la dernière fois que je vous ai vu. J'ignore si aucun de nos évêques pourrait prêcher contre le suicide plus éloquemment que vous. Mais à moins que vous ne puissiez me trouver quelqu'un qui veuille me prêter tout à l'heure 100 guinées, il faut que je me pende, ou que je me noie, ou que je meure de faim. Et, dans mon opinion, ce dernier genre de mort est le plus terrible des trois. » Je lui répondis très sérieusement que j'étais en effet changé depuis la dernière fois que je l'avais vu, que j'avais eu le temps de reconnaître mes erreurs et de m'en repentir. Je lui conseillai de suivre mon exemple et terminai en l'assurant que je lui prêterais moi-même les 100 guinées si elles pouvaient servir à arranger ses affaires et s'il s'engageait à ne plus mettre au pouvoir d'un dé le droit de le ruiner. Monsieur Watson, que la première partie de mon discours avait presque endormi, se réveilla à la dernière. Il saisit ma main avec transport, me fit 1000 remerciements et protesta que j'étais bien réellement un ami, ajoutant qu'il espérait que j'avais conçu de lui une meilleure opinion, que je ne devais pas croire qu'il eût assez peu profité des leçons de l'expérience pour se confier encore à ces maudits dés qu'il avait si souvent trompés. « Non, non, s'écria-t-il, que je puisse une bonne fois me remettre un peu bien dans mes affaires, et si la fortune après cela fait de moi un banqueroutier, je le lui pardonne d'avance. » Je compris très bien ce qu'il entendait par cette dernière phrase. Je lui dis donc du ton le plus sérieux, « Monsieur Watson, vous devez faire tous vos efforts pour trouver quelque occupation ou quelque emploi qui puisse vous procurer une existence honnête. Et je vous promets, pour peu que je voie par la suite quelque probabilité d'en être remboursé, de vous avancer une beaucoup plus forte somme que celle dont vous avez parlé pour vous faire paraître honorablement dans le monde. Mais quant au jeu, outre que c'est une bassesse et même un crime d'en faire sa profession, j'en ai assez vu pour vous dire que vous n'y êtes nullement propre et qu'il finirait infailliblement par causer votre ruine morale. » « Cela est étrange, répondit-il, que ni vous ni aucun de mes amis ne consentiez à m'accorder aucun talent, et cependant je crois que je joue tous les jeux aussi bien que pas un de vous. Je voudrais seulement que vous voulussiez jouer contre moi toute votre fortune. Je ne voudrais rien de plus, et vous donnerais le choix du jeu par-dessus le marché. Mais allons, avez-vous les 100 guinées dans votre poche ?» Je lui répondis que je n'en avais sur moi que 50, en un billet que je lui remis, en lui promettant de lui rapporter le reste le lendemain matin. Et après lui avoir donné quelques petits conseils, je pris congé de lui. Je fus plus exact encore que je ne l'avais promis, car je revins chez lui dans le même après-midi. En entrant dans sa chambre, je le trouvai assis sur son lit et jouant aux cartes avec un joueur inconnu. Vous pouvez imaginer combien cette vue me choqua. Ajoutez à cela le chagrin que je ressentis de lui voir donner mon billet à son adversaire qui ne lui rendit en échange que 30 guinées. L'autre joueur quitta aussitôt la chambre, et M. Watson me dit qu'il était confus de me voir. Mais, ajouta-t-il, la fortune me joue des tours si damnables que je suis résolu de quitter le jeu pour toujours. Je n'ai pas cessé de penser à la proposition obligeante que vous m'avez faite, et je vous promets que ce ne sera pas ma faute si je ne me mets pas en mesure d'en profiter. Quoique je n'eusse pas grande confiance en ses promesses, je ne voulus pas manquer à la mienne, et lui remis le reste des 100 guinées dont il me donna un reçu. C'était là tout ce que je comptais jamais recevoir de lui en retour de mon argent. Notre conversation fut interrompue par l'arrivée de l'apothicaire, qui, d'un air extrêmement joyeux, et sans même demander à son malade comment il allait, nous annonça qu'une lettre qu'il venait de recevoir contenait de grandes nouvelles qui, dit-il, ne tarderaient pas à être publiques. Entre autres, que le duc de Monmouth était débarqué dans l'ouest avec de nombreuses troupes hollandaises et qu'une autre flotte considérable menaçait la côte du Norfolk et devait y faire une descente pour favoriser l'entreprise du duc par une diversion de ce côté. Cet apothicaire était un des plus grands politiques de son temps. Il était plus attaché au plus misérable chiffon qu'il recevait de Londres et contenant la moindre nouvelle qu'au plus riche de tous ses malades. Et le plus grand bonheur dont il put jouir était celui d'avoir ce papier en sa possession une heure ou deux avant toute autre personne de la ville. Cependant, ces nouvelles n'étaient que bien rarement authentiques, car il croyait presque tous en difficulté, sorte de bonhomie dont on abusait fréquemment pour lui en imposer. C'est ce qui arriva en cette occasion, car on sut bientôt après que le duc était en effet débarqué, mais que son armée était peu nombreuse, et quant à la diversion en Norfolk, elle était entièrement fausse. L'apothicaire ne resta dans la chambre que le temps nécessaire pour nous apprendre ces nouvelles. Et puis, sans dire un mot à son malade sur aucun autre sujet, il partit pour aller les divulguer dans toute la ville. Des événements de cette nature, répandus dans le public, font ordinairement disparaître tous les intérêts particuliers. Notre conversation devint donc entièrement politique. Quant à moi, j'étais depuis quelque temps sérieusement affecté du danger auquel la religion protestante était si visiblement exposé sous un prince papiste, et je pensais que la crainte de ce malheur suffisait seule pour justifier cette insurrection. Car il n'y a aucune sécurité réelle à attendre de l'esprit persécuteur du papisme quand il est armé du pouvoir, si on ne lui arrache ce pouvoir, comme une malheureuse expérience ne nous le montrait que trop. Vous savez comment le roi Jacques se conduisit après ses succès. Le peu de cas qu'il fit de sa parole royale, du serment fait par lui lors de son sacre, de la liberté et des droits de ses peuples. Mais tous n'eurent pas assez de jugement pour le prévoir dans le premier moment. Aussi le duc de Monmouth fut-il faiblement soutenu. Cependant, tous sentirent le mal quand il les eut atteints. Ils s'unirent enfin pour chasser ce roi, contre l'exclusion duquel un grand nombre parmi nous avait disputé avec tant de chaleur sous le règne de son frère, et pour lequel nous combattions alors avec autant de courage que de véritable affection. « Ce que vous dites, interrompit Jones, est très vrai. Et j'ai souvent été frappé, comme de la chose la plus extraordinaire que j'ai jamais lue dans l'histoire, qu'aussitôt après cette expérience convaincante, qui porta toute notre nation à se réunir avec tant d'unanimité contre le roi Jacques, pour la conservation de notre religion et de nos libertés, il se soit formé au milieu de nous un parti assez fou pour désirer le replacement de sa famille sur le trône. « Vous ne parlez pas sérieusement, répondit le vieillard. Il ne peut exister un tel parti. Quelque mauvaise opinion que j'aie des hommes, je ne puis les croire capables de ce degré de folie. Il peut bien y avoir quelques têtes chaudes de papistes, conduits par leurs prêtres à défendre cette cause désespérée et à la considérer comme une guerre sainte. Mais que des protestants, qui sont membres de l'Église anglicane, puissent être de tels apostats, coupables de félonie envers soi-même, je ne puis le croire. Non, non, jeune homme, quelque ignorant que je sois de tout ce qui s'est passé dans le monde depuis ces 30 dernières années, on ne peut m'en imposer au point de me faire croire un conte aussi déraisonnable. Mais vous avez sans doute le projet de vous jouer de mon ignorance. Est-il possible, reprit Jones, que vous ayez vécu assez séparé du monde pour ne pas savoir que pendant cet intervalle, il y a eu deux rébellions en faveur du fils du roi Jacques, l'une desquelles se porte maintenant avec fureur jusque dans le cœur du royaume. À ces mots, le vieillard se leva, et du ton le plus solennel, conjura Jones, au nom de Dieu, de lui affirmer si ce qu'il lui disait était réellement vrai. Ce que Jones, lui ayant affirmé avec la même solennité, il fit plusieurs tours dans sa chambre, en gardant un profond silence, tantôt versant des larmes, tantôt éclatant de rire. Enfin, il se jeta à genoux et remercia Dieu à haute voix de l'avoir délivré de la société des hommes, puisqu'ils étaient capables d'aussi monstrueuses extravagances. Quand il eut fini cette prière d'action de grâce, Jones lui rappela qu'il avait interrompu son histoire, et il la reprit en ces termes. « Comme, au temps dont je parlais, Le genre humain n'était pas encore parvenu à ce degré de folie dont je vois qu'il est capable maintenant, et auquel je n'ai sans doute échappé qu'en vivant seul et éloigné de la contagion, il y eut un soulèvement considérable en faveur de Monmouth, et mes principes m'entraînant avec force vers son parti, je résolus d'aller le joindre. Monsieur Watson, par des motifs différents, prenant la même résolution que moi, car dans des circonstances de cette nature, l'amour du jeu entraîne un homme aussi loin que l'amour de la patrie, nous nous pourvûmes bientôt de toutes les choses nécessaires et nous rendîmes auprès du duc à Bridgewater. Je suppose que vous êtes instruit aussi bien que moi du malheureux succès de cette entreprise. Je m'échappai, ainsi que M. Watson, de la bataille qui eut lieu à Sedgemoor et où je reçus une légère blessure. Nous fîmes près de 40 000 ensemble sur la route d'Exeter, et puis, abandonnant nos chevaux, nous nous sauvâmes comme nous pûmes à travers champs et par des chemins détournés. Nous arrivâmes enfin à une petite cabane isolée au milieu d'une commune, où une pauvre vieille femme prit de nous tout le soin possible, et pansa ma plaie avec un onguent qui me guérit en peu de jours. « Je vous en prie, monsieur, où était votre blessure ?» dit Partridge. Le vieillard lui répondit que c'était au bras, et reprit son histoire. Monsieur Watson me quitta le lendemain, à l'effet, disait-il, d'aller nous chercher quelques provisions à la ville de Calumpton. Mais, puis-je le dire, où pourrez-vous le croire? Monsieur Watson, cet ami, ce vil, ce barbare, ce perfide scélérat, me dénonça à un détachement de cavalerie du parti du roi Jacques Ier, et, à son retour, me livra entre leurs mains. Les soldats, au nombre de 6, m'avaient arrêté et me conduisaient à la prison de Taunton. Mais ni ma situation présente, ni les craintes de ce qui pourrait m'arriver, n'étaient à beaucoup près aussi cruelles pour moi que la compagnie de mon faux ami, qui, s'étant livré lui-même, était aussi considéré comme prisonnier, quoiqu'il fût mieux traité et dût probablement faire sa paix à mes dépens. Il tâcha d'abord d'excuser sa trahison, mais comme il ne reçut de moi que mépris et reproches, il changea bientôt de ton, voulut me faire passer pour le plus atroce et le plus coupable des rebelles, et mit tout son crime à ma charge, m'accusant de l'avoir sollicité, menacé même pour lui faire prendre les armes contre son gracieux et légitime souverain. Ce faux témoignage, car Watson avait été réellement le plus violent de nous deux, me piqua au vif et excita en moi une indignation que pourront à peine concevoir ceux qui ne l'ont pas éprouvée. Cependant, la fortune prit enfin pitié de ma destinée. Nous étions dans un chemin étroit, un peu au-delà de Wellington, lorsque mes gardes reçurent une fausse alarme, et croyant en effet qu'un détachement ennemi de 50 hommes était à leur trousse, prirent la fuite et me laissèrent ainsi que mon traître, libre d'en faire autant. Le scélérat profita aussitôt de sa liberté pour s'enfuir loin de moi, et j'en fus charmé pour lui, car bien que je n'eusse point d'armes, j'aurais certainement cherché à tirer vengeance de sa lâcheté. J'étais libre encore une fois. Je quittai aussitôt le grand chemin et me mis à marcher à travers champs, sans savoir où, m'occupant surtout d'éviter les routes fréquentées, toutes les villes et même les maisons les plus isolées. Je ne rencontrai pas un homme que je ne le crusse tout prêt à me trahir. Enfin, après avoir erré plusieurs jours, pendant lesquels les champs me fournissaient le même lit et les mêmes aliments dont la nature gratifie nos frères les animaux, j'arrivai en ce lieu. Sa solitude et son aspect sauvage m'invitèrent à y fixer ma demeure. La première personne avec laquelle je m'établis ici fut la mère de cette vieille femme. Je restai caché avec elle jusqu'à ce que la nouvelle de la glorieuse révolution qui s'opéra mit fin à mes craintes de danger personnel et me permit de retourner encore une fois chez moi et de m'occuper un peu de mes affaires, que j'arrangeai bientôt d'une manière qui fût aussi agréable à mon frère qu'à moi. Car je lui abandonnai tout, moyennant la somme de 1000 livres sterling, qu'il me paya sur-le-champ, et une rente viagère dont il me fit passer le contrat. Sa conduite, dans cette dernière occasion, comme dans toutes les autres, fut celle d'un homme vil, qui ne songe qu'à ses intérêts. Je ne pouvais le regarder comme mon ami, et il faut convenir qu'il ne se souciait pas que j'eusse de lui cette opinion. Je pris donc aussitôt congé de lui, ainsi que de mes autres connaissances, et, à dater de ce jour, toute mon histoire pourrait s'écrire dans une seule ligne. « Est-il possible, monsieur, dit Jones, que vous ayez eu le courage de rester ici depuis cette époque ?»« Oh non, monsieur, répondit le vieillard, j'ai beaucoup voyagé, et il y a peu de parties de l'Europe que je ne connaisse. » « Je n'ose pas, monsieur, dit Jones, vous demander en ce moment le récit de vos voyages. Ce serait une cruauté après la fatigue que je viens de vous faire essuyer. Mais vous me permettrez sans doute de saisir la première occasion qui se présentera à moi d'entendre les excellentes observations que de si longs voyages ont dû faire à un homme qui a autant de jugement et de connaissance du monde que vous en avez. « Jeune homme, répondit le vieillard, je ferai tous mes efforts pour satisfaire votre curiosité à cet égard. » Jones voulut lui faire de nouvelles excuses, mais le vieillard ne voulut pas les entendre. Et pour répondre à la vive impatience qu'il témoignait, ainsi que Partridge, il continua son récit, comme nous le verrons dans le chapitre suivant. Chapitre 15. Histoire abrégée de l'Europe et conversation curieuse entre M. Jones et l'homme de la colline. En Italie, les aubergistes sont très silencieux. En France, ils parlent davantage, mais cependant ils sont polis. En Allemagne et en Hollande, ils sont généralement fort impertinents. Quant à leur honnêteté, je la crois à peu près la même dans tous ces pays. Vous pouvez être sûr que les laquais de louage ne perdent pas une occasion de vous friponner. Et quant aux postillons, je crois qu'ils se ressemblent beaucoup partout. Voilà, monsieur, toutes les observations que j'ai faites sur les hommes dans mes voyages, ceci étant les seuls à qui j'ai jamais parlé depuis 30 ans. Mon projet, en partant, était de me distraire par la vue de cette prodigieuse variété de paysages, de quadrupèdes, d'oiseaux, de poissons, d'insectes et de végétaux dont il a plu à Dieu d'enrichir différentes parties de ce globe. Variété non moins faite pour donner un grand plaisir aux contemplateurs attentifs que pour déployer d'une manière admirable la puissance, la sagesse et la bonté du Créateur. S'il faut dire la vérité, il n'y a réellement dans toute la création qu'un seul ouvrage qui lui fasse quelque déshonneur, et j'ai depuis longtemps évité d'avoir aucun commerce avec lui. « Vous me pardonnerez, s'écria Jones, mais j'ai toujours pensé qu'il y avait dans ce même ouvrage dont vous parlez une aussi grande variété que dans tous les autres. » Car, outre les différences d'inclination, j'ai ouï dire que les usages particuliers et l'influence du climat avaient introduit la plus grande diversité parmi les hommes. « Très peu, je vous assure, répondit le vieillard. Ceux qui voyagent pour s'instruire des mœurs des différents peuples pourraient s'épargner beaucoup de peine en allant passer le carnaval à Venise, car ils y verraient d'un coup d'œil tout ce qu'ils pourraient observer dans les différentes cours de l'Europe. » La même hypocrisie, la même mauvaise foi, en un mot les mêmes folies et les mêmes vices, revêtus d'habits différents. Ceux des Espagnols ont un costume plein de gravité, ceux des Italiens en ont un d'une splendeur éblouissante. En France, un fripon a le vêtement d'un petit maître, et dans les États du Nord, celui d'un mendiant. Mais la nature humaine est partout la même, et mérite partout l'horreur et le mépris. Quant à moi, j'ai traversé tous ces pays, comme vous auriez pu faire dans une foule à la porte d'un spectacle, passant à droite, à gauche, pour m'en délivrer, tenant mon nez d'une main et ma poche de l'autre, sans dire un mot à qui que ce soit, et me hâtant de voir ce que je voulais voir. Mais quelque intéressante que chaque chose m'ait parue en elle-même, c'est tout au plus si j'ai été dédommagé de la peine réelle que m'a causée la compagnie des hommes. Mais parmi les nations où vous avez voyagé, dit Jones, n'en avez-vous pas trouvé qui vous ait moins choqué les unes que les autres ? Oh oui, répondit le vieillard. J'ai supporté les Turcs avec moins de peine que les chrétiens, car ce sont des hommes profondément taciturnes et qui ne fatiguent jamais un étranger de questions. Il est vrai que de temps en temps, ils jurent après lui ou lui crachent au visage quand il passe dans la rue. Mais après cela, tout est fini, et un homme peut vivre un siècle dans leur pays sans entendre sortir une douzaine de paroles de leur bouche. Mais de tous les hommes que j'ai vus dans ma vie, que le ciel me préserve des Français. Avec leur maudit babil et leur politesse, et pour me servir de leur expression favorite, leur manière de faire aux étrangers les honneurs de leur nation, ou plutôt de déployer toute leur vanité, ils sont si fatigants que j'aimerais infiniment mieux passer la vie avec les Hottentots que de remettre le pied à Paris. Voilà, monsieur, où finit l'histoire de ma vie. Car toute cette suite d'années pendant lesquelles j'ai vécu retiré ici ne vous offrirait aucune variété intéressante et peut à peine être regardée comme un jour. Au milieu d'un royaume aussi peuplé que celui-ci, ma retraite a été si absolue qu'il m'aurait été difficile de me procurer une solitude plus complète dans les déserts de la Thébaïde. Comme je n'ai aucun bien fond, je n'ai point d'embarras des fermiers ni des intendants. Ma rente m'est payée assez régulièrement, et il est bien juste qu'elle le soit, car elle est fort au-dessous de ce que j'aurais pu prétendre en retour de ce que j'ai abandonné. Je ne reçois point de visite, et la vieille femme qui a soin de ma maison sait que sa place dépend entièrement des soins qu'elle se donne pour m'éviter la peine d'acheter ce dont j'ai besoin, celle de m'occuper de toute espèce d'affaires et de sollicitations, et pour garder le silence quand je suis à portée de l'entendre. Comme mes promenades se font toute la nuit, dans ce lieu sauvage et désert, je suis presque sûr de ne rencontrer personne. Le petit nombre de ceux que le hasard m'a fait trouver sur mon chemin s'est enfui devant moi fort effrayé, la bizarrerie de mon costume donnant à mon aspect je ne sais quoi d'étrange qui me faisait prendre par eux pour un fantôme. Mais ce qui m'est arrivé cette nuit prouve que même ici, je ne suis pas encore à l'abri de la scélératesse des hommes. Car sans votre secours, j'aurais été non seulement volé, mais probablement assassiné. Jones remercia l'étranger de la peine qu'il avait prise de lui raconter son histoire, et lui témoigna son étonnement de ce qu'il avait pu supporter une vie aussi solitaire, dont la monotonie aurait dû lui être insupportable. « Je ne conçois pas réellement, ajouta-t-il, comment vous avez pu remplir, ou plutôt tuer le temps, pendant un si grand nombre d'années ?»« Je ne suis point du tout surpris, répondit le vieillard, que celui dont les affections et les pensées ont uniquement le monde pour objet, ait pu penser que je manquasse d'occupation dans cette retraite. Mais il en est une seule pour laquelle la vie entière de l'homme est infiniment trop courte. Quel temps peut suffire à la contemplation, à l'adoration de cet être glorieux, immortel, éternel, dont les ouvrages merveilleux frappent à tel point l'imagination que non seulement ce globe argenté, mais encore ces flambeaux innombrables que nous pouvons voir d'ici briller dans le firmament, quoique chacun d'eux soit peut-être un soleil qui éclaire des mondes différents, ne paraissent à l'œil qu'un petit nombre d'atomes comparés à la terre que nous habitons. Un homme qui, par la méditation des choses divines, est admis en quelque sorte au ravissant honneur de converser avec cette ineffable, cette incompréhensible majesté, peut-il trouver les jours, les années, les siècles même, trop longs? Et quoi? Les amusements frivoles, les plaisirs insipides, les ridicules affaires du monde emporteront donc nos heures loin de nous avec trop de rapidité? Et la marche du temps semblera lente à l'esprit occupé d'études si sublimes, si importante et si glorieuse? Mais si le temps ne suffit pas, tous les lieux sont également bons pour s'occuper de ce grand intérêt. Sur quel objet, en effet, pouvons-nous jeter les yeux qu'il ne nous inspire l'idée du pouvoir, de la sagesse et de la bonté de Dieu? Il n'est pas nécessaire que le soleil, après avoir entrouvert les portes de l'Orient, darde ses rayons enflammés sur l'horizon. Que les vents tumultueux s'échappent avec violence du fond de leurs cavernes pour épuiser leurs efforts contre les forêts les plus élevées, que les nuages déchirés retombent en déluge sur les plaines, aucun de ces grands effets n'est nécessaire pour proclamer au monde la majesté de son auteur. Il n'est pas un insecte, pas un végétal de la classe la plus obscure, dans l'ordre admirable de la création, qui ne porte les marques honorables des attributs de son sublime Créateur, et non seulement les marques de son pouvoir, mais encore celles de sa sagesse et de sa bonté. L'homme seul, le roi de cet univers, le dernier et le plus grand ouvrage de l'être suprême parmi ceux qui sont sous le soleil, l'homme seul a bassement déshonoré sa propre nature, et par sa méchanceté, sa cruauté, son ingratitude et sa perfidie, a fait douter de la bonté de son Créateur, en nous rendant difficile de concevoir comment un être bienfaisant aurait pu former un si sot, un si méprisable animal. Voilà pourtant celui dont vous semblez me plaindre d'être éloigné, et sans la bienheureuse société duquel la vie, suivant votre opinion, doit être ennuyeuse et insipide. Je suis entièrement et sans hésiter de votre avis quant à la première partie de votre discours, répondit Jones. Mais je crois, et surtout j'espère, que l'horreur que vous témoignez pour le genre humain dans la dernière est beaucoup trop générale. Je crois que vous tombez ici dans une erreur qu'avec mon peu d'expérience, j'ai remarqué être très commune, et qui consiste à juger les hommes en masse d'après les plus vils et les plus méchants d'entre eux, lorsqu'au contraire, ainsi que l'observe un excellent écrivain, on ne devrait considérer comme caractéristique d'une espèce que ce que l'on peut trouver dans les individus les meilleurs et les plus parfaits de cette espèce. J'ai lieu de croire que cette erreur est généralement commise par ceux qu'un manque de précaution dans le choix de leurs amis et de leurs connaissances a exposé à souffrir de grandes injustices de quelques hommes méchants et méprisables. Deux ou trois exemples semblables ne suffisent pas pour accuser toute la nature humaine. « Je crois en avoir fait suffisamment l'expérience, » répondit le vieillard. « Ma première maîtresse et mon premier ami m'ont trahi tous deux de la manière la plus infâme, et dans des circonstances où il en pouvait résulter pour moi les plus terribles conséquences, et où j'étais menacé même d'une mort ignominieuse. « Mais vous me pardonnerez, » s'écria Jones, « si je vous prie de considérer quelle était cette maîtresse et quelle était cette amie. » Que pouviez-vous attendre de mieux en amour, mon cher monsieur, de la part d'une fille publique, et en amitié de la part d'un joueur accoutumé à fréquenter les tripots? Juger des femmes par l'une ou des hommes par l'autre serait aussi injuste que d'affirmer que l'air est un élément désagréable et malsain, parce que nous le trouvons tel dans certains lieux. Je n'ai vécu que peu de temps dans le monde, et j'ai connu cependant des hommes dignes de la plus tendre amitié, et des femmes faites pour inspirer l'amour le plus constant. Hélas, jeune homme, vous n'avez vécu que bien peu de temps dans le monde. Vous l'avouez vous-même. J'étais un peu plus âgé que vous lorsque j'avais encore la même opinion. Vous l'eussiez conservé, répliqua Jones, si vous n'aviez pas été malheureux, et j'oserais le dire imprudent dans la manière dont vous aviez placé vos affections. Quand il y aurait dans le monde infiniment plus de méchanceté qu'il n'y en a réellement, toutes ces accusations générales contre la nature humaine n'en seraient pas moins dénuées de preuves, car il est beaucoup de mauvaises actions qui ne sont dues qu'au hasard, et il arrive souvent que celui qui commet le mal n'est pas un méchant et n'a pas le cœur totalement corrompu. Dans la vérité, il me semble que personne n'a le droit d'affirmer que la nature humaine soit toujours et nécessairement perverse. Si ce n'est ceux dont le cœur fournit un exemple de cette dépravation naturelle, et je suis convaincu que ce n'est pas le cas où vous vous trouvez. Et ceux-là, dit le vieillard, seront toujours les derniers à faire un pareil aveu. Les scélérats ne vous instruiront pas plus de la bassesse du genre humain qu'un voleur de grand chemin ne vous préviendra qu'il y a des voleurs sur votre route. Ce serait un moyen de vous mettre sur vos gardes et de nuire eux-mêmes à leurs projets. C'est pour cette raison que, quoique les scélérats, autant qu'il m'en souvient, soit toujours prêt à dire du mal de telle ou telle personne, vous ne les entendrez jamais hasarder une seule réflexion déshonorante sur la nature humaine en général. » Le vieillard prononça ces derniers mots avec tant de chaleur que Jones, désespérant de le convertir et ne voulant pas l'offenser, ne poussa pas la conversation plus loin. Les premiers rayons du jour commençaient à éclairer le sommet de la colline, lorsque Jones fit ses excuses au vieillard d'être resté si longtemps et de l'avoir peut-être empêché de se reposer. Le vieillard lui répondit que jamais il n'avait moins senti qu'en ce moment le besoin du repos, que le jour et la nuit lui étaient parfaitement indifférents, que communément même il se reposait le jour, consacrant la nuit à ses promenades et à ses méditations. Cependant, ajouta-t-il, il fait une matinée charmante. Et si vous pouvez vous soutenir encore quelque temps sans dormir et sans manger, je me ferai un plaisir de vous montrer les plus beaux paysages que vous ayez vus, je crois, de votre vie. » Jones accepta la proposition avec plaisir, et aussitôt ils sortirent ensemble de la chaumière. Quant à Partridge, il était tombé profondément endormi au moment même où le vieillard venait de finir son histoire. Car sa curiosité était satisfaite, et la conversation qui en fut la suite ne produisit pas sur lui un assez grand effet pour conjurer les charmes du sommeil. Jones le laissa donc s'y livrer. Et comme il se pourrait bien que le lecteur désirât jouir en ce moment de la même faveur, nous terminerons ici le 8e livre de notre histoire.